Les Midis de Culture, c'est reparti pour la deuxième partie. À 13h, comme promis, je recevrai la romancière Leïla Slimani. Mais d'abord, c'est l'heure du Point Culture avec Marie Sorbier. Bonjour Marie.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Rachida Dati a annoncé de nouvelles coupes budgétaires pour la culture. En plus des 100 millions déjà actés, le ministère devra encore réaliser 50 millions de coupes supplémentaires. Alors qui va en pâtir? Peut-on encore assurer les missions de service public de la culture avec un budget aussi réduit? C'est le dossier du Point Culture du jour. Emmanuel Vallon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de sociologie politique à l'Université Paris-Nanterre. Les acteurs culturels sont désemparés devant les coupes qui s'annoncent au ministère de la Culture. La France a toujours défendu une politique publique de la culture. Est-ce qu'elle est remise en question aujourd'hui, selon vous ?
Elle est remise en question au même titre que d'autres politiques publiques pour la jeunesse, pour l'éducation populaire. Il s'en est fallu de très peu pour que le secteur des sports soit impacté de front. Donc oui, la culture est sur la sellette avec surtout une méthode de discussion budgétaire pour le moins originale et surtout très déconcertante, y compris pour les sénateurs et pour les députés qui examineront à leur tour ce budget. Les annonces étant de coupe, étant généralement prononcées, soit juste avant la discussion, soit juste après le vote, ce qui est évidemment
ce qui est quand même très étrange.
Du goût des parlementaires.
Oui. À l'aune de la Ve République, est-ce que vous diriez que le budget du ministère de la Culture ne permet plus aujourd'hui de remplir correctement ses missions ?
Alors, ce budget a augmenté dans les dernières années de façon marginale, mais finalement relativement régulière depuis les coupes et les gels qui étaient survenus en 2014. On a vu après, disons, une sorte de rattrapage, mais cela ne suffit pas du tout à faire face à la fois à l'augmentation des besoins qui s'expriment dans la vie culturelle, je pense en particulier à l'éducation artistique des jeunes en milieu scolaire et aussi au développement d'une action plus en profondeur dans la décentralisation dans les territoires, et aussi face à l'augmentation irréversible des coûts, aussi bien pour l'entretien du patrimoine que pour la production et la diffusion du spectacle vivant. L'inflation est une chose, elle a été importante ces deux dernières années, mais il y a aussi une augmentation structurelle des coûts qui n'est pas compensée par les très légères augmentations budgétaires. Surtout que là, nous nous retrouvons à nouveau à l'étiage de l'année précédente, après les 100 millions de coupes qui avaient été prononcées par l'éphémère gouvernement Barnier.
Une dernière question pour finir cet entretien. Est-ce que vous diriez que c'est toujours la création qui est le plus en danger lors de ces coupes-là, je veux dire par rapport au patrimoine? On a toujours l'impression que c'est sur le contemporain et la création que les coupes vont s'abattre.
Alors c'est la plus fragile. Un chantier de patrimoine, sauf quand le monument menace ruine, ce qui est quand même le cas de 5% des monuments classés, c'est important, peut être repoussé d'une année ou de deux. Alors que la création, on est dans la matière vive. Et toute diminution, toute surprise, évidemment, est très dommageable. Mais surtout, j'ajouterais que on est là dans un système de financement croisé avec les collectivités territoriales, lesquelles ont tendance aussi à diminuer leur financement. Et ça a été assez brutal dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça l'est encore plus en Pays de la Loire, avec un discours très décomplexé de Madame Borancet, qui semble prendre son inspiration de l'autre côté de l'Atlantique, avec des tweets très très enthousiastes vis-à-vis de Monsieur Trump ou de Monsieur Musk récemment. Donc là, oui, c'est l'ensemble du château qui risque de s'écrouler, tout ce qui a été bâti patiemment depuis non seulement les années 80, mais même auparavant en termes de partenariat avec les collectivités territoriales. Si l'État n'est pas capable de répondre en dehors des grands établissements franciliens nationaux situés le plus souvent à Paris et qui sont généralement préservés, ça risque de faire très très mal, aussi bien pour les ensembles artistiques, les compagnies, que pour des établissements labellisés.
Merci beaucoup Emmanuel Vallon.
Eh bien, merci.
Très concrètement, sait-on quelles seront les conséquences de ces baisses, Marie ?
Alors, ce sont pour l'instant encore des estimations, mais le syndicat des entreprises artistiques et culturelles a tenté de chiffrer les dégâts. Joris Mathieu, bonjour. Vous êtes metteur en scène, directeur du TNG à Lyon et coprésident du Syndéac. Le budget du ministère de la Culture va de nouveau être amputé. On a appris ce week-end 50 millions de coupes supplémentaires. Très concrètement, à quelles conséquences faut-il s'attendre ?
En dehors de cet amendement et de son montant et donc de cette diminution, notre secteur est dans une situation absolument catastrophique. Et si on doit donner une idée concrète de comment les coupes vont affecter notre secteur, en fait, c'est assez simple à comprendre. Il suffit d'imaginer que le salaire médian des actifs de la culture, qui a été mesuré en 2023 et qui équivaut à peu près à 20 000 euros annuels, bah, il suffit de prendre ce montant et de diviser le montant des coupes annoncées par ce montant pour savoir combien d'emplois vont être menacés.
Et alors, combien à peu près ?
Alors, si on prend que cette annonce de 50 millions de coupes du budget de l'État, ça se traduirait par l'équivalent de 2500 emplois menacés, que ce soit des emplois permanents, des emplois intermittents ou des emplois indirects, puisque notre secteur, 90% de nos financements repartent directement dans l'emploi. Et parfois, c'est d'autres services, ça peut être dans de l'hôtellerie, de la restauration.
Oui, bien sûr, on pense aux festivals, par exemple, qui font travailler tout un écosystème autour du festival artistique.
Exactement.
Très concrètement, est-ce que ce sont plutôt les institutions qui vont pâtir de cette baisse-là ou également les artistes ? Comment le fléchage va se faire ?
En fait, l'ampleur de la problématique est telle qu'on n'est plus en capacité de distinguer qui va être le plus touché. Est-ce que c'est les institutions ou les artistes ? Notre interdépendance fait qu'aujourd'hui, indifféremment, artistes et institutions vont être touchés. Je vais être très concret. Aujourd'hui, les institutions telles que celles que je dirige, mais ou tous mes collègues, n'ont absolument plus aucune marge d'adaptation pour préserver les missions qui leur sont confiées par cahier des charges par les financeurs publics. On se retrouve désormais dans une situation où nous n'allons plus être en capacité, nous, de gérer les effets des décisions de coupe budgétaire.
Oui, donc vous pouvez plus faire votre travail, en fait. C'est ça que vous êtes en train de nous dire.
Notre financement nous permet à peine de traiter nos missions essentielles, qui sont de soutenir de la création et de faciliter pour tous les gens qui nous écoutent l'accès à la culture. On n'est plus en capacité de supprimer des emplois permanents, puisqu'on remettra en cause la possibilité d'ouvrir nos lieux. Et évidemment, ça ne sert à rien d'avoir des lieux ouverts si on ne peut plus accueillir d'artistes. Donc on est dans la quadrature du cercle. Pour que les gens comprennent bien, les montants de coupes annoncés cumulant les coupes des collectivités et celles de l'État sont telles qu'il va falloir un jour choisir si c'est maintenu, s'il faut supprimer des lieux culturels en France, et si oui, dans quelle région, et plutôt dans les régions ou plutôt à Paris. Car finalement, visiblement, les financeurs publics n'ont plus les ambitions en termes de moyens économiques pour soutenir tout ce qui existe.
Est-ce qu'il y a des recours possibles ? Alors, la loi n'est pas encore passée, enfin, le budget n'est pas encore voté, donc là, on parle de quelque chose qui est encore de l'ordre hypothétique, mais est-ce que vous voyez, vous, des leviers d'action pour empêcher ces coupes-là ?
Bien sûr, on a eu de cesse l'ensemble des syndicats, de manière unitaire, à faire des propositions. On en appelle à un sursaut aussi des députés ou des membres de la commission paritaire mixte qui vont statuer sur la loi de finances pour qu'ils fassent des arbitrages qui permettent d'améliorer cette situation. Un levier qui est évident et qui, je crois, dont plus personne n'est dupe, c'est évidemment les montants astronomiques qui sont dédiés au pass culture. On doit interroger de manière urgente quel intérêt il y aurait à continuer à soutenir la consommation de biens culturels, même chez la jeunesse, s'il n'y a plus de lieux culturels pour accueillir cette jeunesse. Donc, aujourd'hui, notre demande, elle est un refléchage urgent des crédits du pass culture vers le secteur de la création. qui permettrait par ailleurs de réduire l'écart qu'il y a actuellement dans les budgets, où on constate que le patrimoine est en forte hausse, là où la création est en baisse partout.
Merci, c'était très clair. Merci beaucoup Joris Mathieu.
Et merci Marie Sorbier, on se retrouve lundi pour d'autres actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous êtes sur France Culture.